Influencé par les différences biologiques liées au sexe, au genre et aux autres déterminants sociaux, la santé des femmes représente un enjeu de santé publique majeur dans tous les pays du monde, indépendamment de l'indice de développement économique. Selon le rapport le plus récent de l'ONU sur l'espérance de vie, en France et en moyenne, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, respectivement 85 ans et 80 ans. Toutefois, les femmes connaissent une morbidité plus importante et ont davantage recours aux services de soins, en particulier en ce qui concerne la santé reproductive. Au quotidien, de nombreuses associations se battent afin d'optimiser les parcours de soins, d'augmenter la visibilité des pathologies féminines et d'améliorer l'accompagnement des patientes. C'est le cas des invités que nous accueillons dans cette série de podcasts en 6 épisodes, où nous entendrons les représentantes et les représentants de 6 associations qui viennent soutenir les femmes dans leur parcours de patiente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Engagé, une émission proposée par les CADUC et ESCP.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour enregistrer ce podcast et discuter sur votre association Agir pour la santé des femmes. Donc pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter également votre fonction au sein de l'association ?
Bonjour, merci de nous recevoir. Dominique Fauvel, moi je suis médecin, je suis bénévole à la DSF depuis 4 ans, et je suis membre du conseil d'administration.
Bonjour et merci de nous recevoir. Je suis Virginie Petit et je suis arrivée depuis peu à la DSF, depuis 4 mois. Et je suis notamment en charge des partenariats, de la recherche de fonds, de la communication.
Ok, merci pour votre présentation. Alors, si on peut commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association ADSF et quelle en est sa mission principale ou ses missions principales ?
Alors, la mission principale de l'ADSF, c'est vraiment de permettre aux femmes les plus vulnérables, celles qui sont en plus grande précarité, d'intégrer un parcours de soins qui soit adapté à leur cas particulier. Et une fois qu'elles ont intégré ce parcours de soins, c'est les accompagner, les suivre, pour qu'elles, in fine, s'autonomisent dans leur propre prise en charge. Pour ça, on a une équipe de salariés, et en particulier une équipe terrain avec des sages-femmes, des psychologues et une travailleuse sociale. On a une particularité dont on parlera plus tard sûrement, ce sont les femmes repères. Et puis, il y a tout un tas de bénévoles. Et si aujourd'hui, vous pouvez nous permettre d'en avoir encore plus, ça sera encore mieux.
Vous êtes une équipe vraiment très pluridisciplinaire.
Absolument, absolument. Oui, ça, c'est super important d'avoir tout ce regard. Et on est vraiment à la DSF pour prendre en charge au niveau santé, au sens global, OMS du terme. C'est-à-dire, c'est la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Donc, c'est important d'être pluridisciplinaire, ouais.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez créé cette association et dans quel contexte ça a été fait ?
L'association a été créée en 2001 par un gynécologue. Tout d'abord, l'association était une association humanitaire qui intervenait à l'international, toujours dans l'idée de donner accès aux femmes à la santé. Et puis après, en 2014, l'association s'est recentrée sur la France, à Paris, et également à Lille. On est également dans les Hauts-de-France depuis 2019 pour intervenir là aussi, toujours dans le même objectif, auprès des femmes les plus vulnérables, dans la rue, sans abri ou en hébergement d'urgence.
Et est-ce que votre activité a évolué depuis les débuts de votre association ? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles missions ? Est-ce que vous avez fait de nouvelles choses ?
Alors, ouais, je vais vous répondre sur les nouveautés. Ce qui a déjà vous présenté pour ce qui est le côté pratique de la mission, il y a 3 mots-clés qui sont « aller vers »,« orienter » et « accompagner ». D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'essentiel de l'association. Ça a toujours été ça, ça continue à être comme ça. Aller vers, c'est les maraudes, ou c'est aller vers dans les dames qui sont logées, hébergées dans des hôtels sociaux ou dans des foyers, ou alors on nous appelle. Par exemple, on a des partenaires au niveau des gares qui nous signalent que des femmes sont en situation précaire et on va aller les voir. Donc ça, c'est aller vers. Ensuite, c'est essayer de les faire venir dans nos repères, dans nos haltes de jour, de façon à ce qu'elles puissent se reposer, et puis là aussi pour qu'on puisse les orienter et du coup identifier leurs besoins. C'est super important de pouvoir être vraiment à leur écoute et leur proposer ce dont elles ont besoin. Et si elles n'ont pas envie, le jour où on parle avec elles, elles n'ont pas envie de parler, ben on les laisse. Et puis petit à petit, on va tisser des liens. Tout ça se fait dans la confiance. Et après, il y a une coordination de soins pour les accompagner durablement.
Ça n'a pas changé.
Par contre, effectivement, il y a des nouveautés qui sont des ateliers de groupe de parole, des ateliers psychotrauma en fonction du parcours des dames que nous pouvons recevoir. Mais ça, peut-être qu'on peut en parler
plus tard.
Justement, oui, plus tard.
Et quand vous parliez du premier point, donc, qui est d'aller vers les femmes, comment est-ce que vous réussissez à contacter ces femmes dans le besoin, en plus des partenaires que vous avez, par exemple, comme vous l'avez dit, dans les gares? Comment est-ce que vous fonctionnez pour faire connaître votre association pour ces femmes?
Alors, on fait des maraudes. Mmh. On fait des maraudes quand... Soit on est appelé effectivement par des partenaires, on travaille beaucoup avec des partenaires qui sont des partenaires qui vont travailler avec les usagères de drogue ou qui vont travailler avec les personnes sans domicile. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de nom ultérieurement. Ils peuvent nous appeler, donc on y va. Sinon, c'est les maraudes. C'est les maraudes et on a un camion pour les maraudes. On fait des maraudes pédestres et là, on rencontre des femmes. Moi, hier, j'étais à la halte de nuit du 18e arrondissement où les femmes viennent dormir à partir de 20h. Et là, j'ai été rencontrer des dames. Sur les 6 dames qui dormaient là-bas, il n'y en avait pas une qu'on connaissait. Et voilà, on va les amener à venir, on leur a parlé de l'association, de ce qu'on faisait, et on va les amener à venir nous rencontrer pour qu'on puisse mettre en route ce parcours de soins.
D'accord.
Et est-ce que vous avez prévu de vous étendre dans plusieurs d'autres grandes villes de France ou
Il y a Lille déjà.
Alors pour le moment, on est sur Paris et l'Île-de-France, parce qu'on intervient aussi dans la proche banlieue, donc on a aussi un partenariat, on est aussi à Cergy-Pontoise, on a un partenariat avec la mairie de Bonneuil pour faire plusieurs journées avec des femmes qui seront informées en amont, qu'on fait aussi du dépistage, parce que ça c'est aussi une de nos actions.
Absolument.
Dépistage de cancer, dépistage aussi de VIH et de
maladies
sexuellement transmissibles. Voilà, et après on est aussi dans les Hauts-de-France, donc à Lille, dans plusieurs quartiers. Pour le moment, on est plutôt dans une phase où on étend déjà nos partenariats, déjà localement, déjà sur ces deux régions, ce qui est déjà pas mal. Après, évidemment, peut-être qu'un jour, on deviendra encore plus grande et qu'on aura d'autres antennes en France, bien sûr.
On espère.
Pourquoi on espère, pas. Tout à fait.
Et selon vous, en France, quels sont les principaux enjeux pour la santé des femmes en situation précaire?
Alors, enjeu, il faut qu'on réponde à leurs difficultés. En fait, ces femmes, elles sont... La santé, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est manger, c'est avoir un toit au-dessus de la tête et c'est s'occuper de leur famille. C'est quand même des femmes, donc on se met toujours en arrière. Je fais une généralité, mais bon. Donc, ce n'est vraiment pas leur priorité. C'est arriver à tisser des liens avec elles suffisamment de proximité pour qu'elles comprennent que tout ça est important et qu'on leur apprenne à devenir autonome dans cette prise en charge. Et ça, c'est vrai que c'est super important. C'est pour ça qu'on fait des groupes de parole pour les informer, pour leur dire qu'il y a plein de solutions et que là aussi, on peut les accompagner au niveau santé, mais aussi au niveau psychologique. Il y a tellement de choses à faire au niveau psychologique avec ces femmes. S'il y a un mot qui convient à toutes ces femmes, à 100% de ces femmes, c'est les violences. C'est des violences qu'elles ont subies soit dans leur parcours quand elles sont migrantes, soit dans leur famille, et c'est pour ça qu'elles sont à la rue, et puis qu'elles vont subir dans la rue tous les jours. Donc c'est vrai que ça, c'est une grande difficulté qu'elles ont, et pour ça, elles sont très craintives, et on met beaucoup de temps à tisser ces liens, à les rassurer, et à leur redonner confiance dans le système aussi, dont elles ont été exclues.
Et du coup, vous avez parlé beaucoup de services de dépistage, de services d'accompagnement social, mais à votre avis, quels sont les principaux, je dirais, services auxquels vous pourrez vous leur apporter, vous leur donner du soutien?
Alors, il y a au niveau médical pur et dur, il y a tout ce qui est ces outils de dépistage. Donc, on a notre fameux frottitruck, donc qui est un camion, on en a deux d'ailleurs, un camion qui est à la fois un espace de confidentialité où on peut discuter avec elles quand on va dans la rue. C'est pas quand même pas très facile de s'agenouiller et discuter de leur santé. Donc, on va dans ces frottitrucks. Et dans ces frottitrucks, il y a un siège de gynéco où on peut faire des dépistages, justement, cancer du col ou IST, enfin maladie, infection sexuellement transmissible. Donc ça, c'est des outils qui nous servent vraiment au dépistage, c'est super important. Et puis il y a tout l'aspect, voilà, groupe de parole, libération de la parole pour toutes ces femmes qui ont tellement souffert. Et là, on a plein d'outils qu'on met à disposition et qui nous sont assez spécifiques d'ailleurs.
Et vous avez beaucoup de partenariats avec les services publics pour ça ?
Ouais, bah ouais. Ça, je vais te laisser la parole.
On travaille, en fait, nous, l'idée vraiment, c'est de leur permettre de réintégrer le système de santé de droit commun et vraiment pas de se substituer à tout ce qui existe. Hein. Il y a énormément de choses. Donc, il y a des COSEM, des I, des CJ, des CRDC, donc des centres de dépistage du cancer, enfin, des hôpitaux avec lesquels on travaille et vers lesquels on les oriente dans le cadre du PASS. Il y a énormément de dispositifs déjà en place et l'idée, c'est vraiment de multiplier les partenariats le plus possible pour que, en fait, nous, on est vraiment une première étape. La première étape, c'est d'aller vers ces femmes, déjà de leur donner envie de sortir de leur invisibilité. Et après, quand elles viennent à l'accueil de jour, de les mettre en confiance et de les suivre dans l'accès aux soins, l'accès au social. Donc, c'est vraiment des étapes. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein, déjà, avant d'établir un vrai contact. Pour la plupart, il y en a quand même beaucoup sans papier aussi. Donc, il faut aussi mettre en route tout le process d'obtention de titre de séjour. Voir aussi, quand elles sont mamans, en fonction de l'âge de leur enfant, la scolarité. Hein, parce qu'en France aussi, il y a quand même cet accès à la scolarité pour les enfants. Donc l'idée, oui, au niveau santé, c'est vraiment de leur faire intégrer tous les dispositifs en place et nos partenaires sont effectivement les professionnels de santé divers et variés. Donc il y a aussi beaucoup de centres médicaux à Paris, de centres ophtalmologiques, de centres dentaires, de centres dermatologiques vers lesquels on les oriente très 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 régulièrement.
On est vraiment, vraiment les mots clés, c'est aller vers, orienter, accompagner. Moi, je suis médecin, je ne fais pas une ordonnance, sauf en temps de Covid, parce qu'il n'y avait plus de médecin. Mais on est là pour orienter toutes.
Et est-ce qu'une fois que vous avez réussi à accompagner ces femmes et de les remettre un peu dans le parcours de soins, de santé publique, est-ce que vous continuez à les suivre après, derrière ? Est-ce qu'elles arrivent à continuer sur ce parcours de soins publics ou est-ce qu'en général, c'est compliqué et elles reviennent souvent vers vous Comment ça se passe?
C'est compliqué, ne serait-ce que parce que tout ce système, entre l'AME, la CMU, j'ai pas d'accès. Déjà, c'est hyper compliqué. C'est un grand mérite d'exister. C'est top qu'en France, on puisse leur permettre ça, mais c'est des couches et des couches administratives. Et puis, c'est vrai qu'encore une fois, la santé, c'est pas leur priorité. Donc, la coordinatrice de soins qui fait un boulot extraordinaire les suit. Les appels, les bénévoles aussi, les appels, on t'a pris un rendez-vous, on vous a pris un rendez-vous, est-ce que vous y avez été, comment ça s'est passé, venez nous raconter. Donc, c'est vrai qu'on les accompagne. D'accord. Jusqu'à ce qu'elles soient capables d'être autonomes. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, c'est sûr, c'est compliqué, et ça prend, comme disait Virginie, beaucoup de temps. Mais jamais on les laisse. Et si elles ont envie qu'on les laisse, on les laisse, mais on les surveille de loin.
Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet ou d'une initiative récente que votre association a fait du coup pour la santé de ces femmes en situation de précarité?
Alors il y a d'une part, il y a deux choses au niveau technique, on va dire. On s'est rendu compte depuis quelques années pour tout ce qui était dépistage du cancer du col. Nous, on faisait des frottis. L'HAS, du coup, a fait des recours en 2019-2020 pour les auto-prélèvements. C'est vrai qu'on s'est rendu compte par différents rapports qu'une femme en situation précaire, aller voir un médecin, faire son frottis, tout ça, souvent, c'est un échec. Il n'y a pas de suivi, justement. Et donc, on va leur apprendre maintenant à faire leur auto-prélèvement. Qu'elles feront on va les former. Et on récupérera les prélèvements, c'est elles qui le feront. On aura pu intervenir avec le spéculum, tout ça. Donc ça, c'est déjà vachement bien, parce que du coup, ça va vraiment permettre. Et les rapports ont montré qu'il y avait des résultats beaucoup plus probants avec ce moyen-là. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tous ces ateliers qu'on fait. On est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'associations qui mettent au point ça. C'est des ateliers, donc, psychotrauma, où il y a une libération de la parole, une libération du corps, une libération de l'anxiété. C'est toujours fait avec des psychologues. Un peu de self-défense. Enfin, il y a tout un tas de choses et ça marche super bien. Il y a vraiment des résultats où les dames, au bout de certaines séances, ne viennent plus nous voir parce qu'elles se sentent fortes. Et c'est vraiment l'objectif. Il y a aussi des ateliers d'art thérapie, la DSF, venez un jour, c'est décoré, c'est super beau. Il y a aussi des ateliers socio-esthétiques, prendre confiance en soi, ça passe par je me prends en charge physiquement, Donc voilà, donc tout ça, on les met vraiment en place. Et puis il y a tout un tas de groupes de parole où on modifie les termes au fur et à mesure. Ça peut être la parentalité, ça peut être la coiffure, le tricot, la couture. Dès qu'elles vont se rendre, la nutrition, on a une de nos femmes repères qui est nutritionniste, donc leur apprendre à mieux se nourrir, dans la mesure où elles le peuvent. Hein, c'est sûr qu'elles ont des conditions de vie qui ne sont pas faciles. Donc voilà, donc ça, c'est des nouveautés entre eux. C'est des choses qui existaient, mais qu'on transforme au fur et à mesure, qu'on étend au fur et à mesure et qu'on adapte au fur et à mesure.
Vous nous parlez beaucoup de femmes repères. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer quel est le principe de ces représentantes ?
Ouais. C'est vrai que c'est une spécificité hyper importante. Les femmes repères, ce sont des dames qui travaillent maintenant avec nous en tant que bénévoles un peu, mais de manière régulière, et qui ont vécu ce parcours qu'ont vécu elles-mêmes les femmes que nous recevons. Donc elles ont été à la rue, elles ont été migrantes, elles sont toutes africaines, et elles ont connu vraiment de près, malheureusement, toutes ces difficultés. Donc pour pouvoir aborder certaines femmes en exil, certaines femmes migrantes, c'est hyper aidant pour nous de travailler avec elles. D'autre part, elles viennent de différentes régions d'Afrique, donc elles parlent plusieurs dialectes, parce que c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue aussi qui peut être importante. Et vraiment, les femmes repères, pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir compter sur elles. Elles ont une humanité, et une proximité. Et puis voilà, les dames que l'on rencontre sont en confiance, se sentent beaucoup plus en confiance, ce qui est normal. Et du coup, lors de la remise du prix que vous nous accordez gentiment, une de nos femmes repères sera présente pour témoigner.
Et concernant tous les projets dont vous nous parlez, comment est-ce que l'ADSF arrive-t-elle à financer tous ces projets et ces services ?
Alors en fait, on a de nombreux soutiens de fondations et de fonds de dotation, à peu près à hauteur de 60%. La Fondation Raja, on travaille aussi avec la Fondation des Femmes, avec la Fondation L'Oréal. On a pas mal de fondations qui sont assez présentes à nos côtés et qu'on arrive heureusement à renouveler aussi. En fonds publics, on a la mairie de Paris, la direction régionale d'hébergement et de logement. On a aussi le conseil régional. On a quelques mairies aussi ponctuellement qui nous soutiennent pour des actions ponctuelles sur leur commune. Et puis on a aussi les dons via Hello Asso, qu'on espère nombreux dans le cadre du gala de l'ESCP et de la Tombola avec les beaux prix. On a une diversification assez intéressante. Donc oui, les fonds privés, c'est à peu près 60%, public 40%, enfin entre 50 et 60, entre 30 et 40, et après 5 à 10% pour les dons. Mmh. Voilà, ça varie. D'une année sur l'autre.
Et je rajouterais les collectes. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on rencontre et qui organisent entre salariés des collectes, et ils nous amènent des vêtements, des produits cosmétiques. Et là, je vais parler de Nana en particulier. La précarité menstruelle, vous en entendez tous parler, c'est super important, ça coûte hyper cher. Et donc, Nana nous donne régulièrement nos stocks débordent de protection hygiénique. Et ça, c'est top parce que c'est inestimable comme partenariat.
Et du coup, oui, je voulais rebondir sur, aussi, on a des kits d'hygiène. Donc, en fait, la DSF constitue des kits d'hygiène grâce à ces collectes de dons. Les kits d'hygiène, on met un tube de dentifrice, une brosse à dents, un shampoing, un savon, des protections périodiques. Et ça nous permet après, quand on part en maraude, de distribuer des petits sacs à dos de la DSF avec un kit complet que l'on remet aux femmes que l'on rencontre. Et ces kits, la plupart du temps, effectivement, c'est grâce à de nombreux partenariats avec les entreprises. Donc, il y a effectivement Nana et Téna, mais il y a aussi We Are Jolie, il y a aussi Caudalie, Docteur Pierre Rico. On a énormément de sollicitations. On est très sollicités, ah ouais, on ne va même pas les chercher, on a de la chance, et pour recevoir tous ces dons. Ouais.
Et est-ce que vous faites également des collectes publiques ou pas ?
Qu'est-ce que vous appelez des collectes publiques?
Par exemple, souvent on voit dans les supermarchés. Mmh.
Oui, alors là, on est plutôt. On peut en organiser nous aussi. Effectivement, on est aussi tellement beaucoup sollicité. On en a une prochaine d'ailleurs à Radio France le 8 mars aussi auprès des salariés. Donc en fait, on incite un peu les personnes qui nous contactent à faire leur collecte. Et après, voilà. L'idéal pour nous, c'est que la collecte soit réalisée par quelqu'un, enfin par une entité, une entreprise. Souvent, c'est à l'initiative d'un ou d'une salariée. Et puis que les kits soient directement constitués dans les entreprises. Et nous, on vient récupérer les kits d'hygiène qu'on peut après directement distribuer aux femmes.
Il y a une autre chose qu'on fait aussi une fois par mois, le premier week-end du mois, c'est il y a une distribution hygiène et santé. Donc, on va distribuer des kits justement aux dames qui n'en ont pas eu, qu'on n'a pas rencontrées dans des maraudes ou dans les hôtels ou les foyers, et des vêtements qui nous ont là aussi été donnés par des personnes, par des associations, et dont elles ont grandement besoin. Donc voilà, c'est une fois par mois, et c'est important. C'est un vaste bazar ce jour-là.
c'est très, très, ouais, très organisé, parce qu'on les fait venir effectivement sur rendez-vous, et c'est l'occasion aussi, c'est toujours en présence de notre équipe terrain, et c'est l'occasion aussi pour les sages-femmes ou psychologues et intervenantes sociales de revérifier avec ces dames que quelquefois, effectivement, on n'a pas vu depuis un petit bout de temps et qu'on recontacte, de vérifier qu'elles sont toujours dans le parcours de soins, qu'elles n'en sont pas sorties et qu'elles ont accès aux besoins en santé, en social nécessaires.
Et on a beaucoup parlé du passé, du présent, mais quel est votre futur? Quels sont vos projets, entre guillemets, vos rêves pour l'association?
Qu'on se développe, qu'on puisse de plus en plus augmenter le nombre de maraudes, qu'on puisse de plus en plus voir des femmes dans des univers différents, enfin toujours dans le domaine de la grande précarité, mais dans des univers différents. C'est organiser de plus en plus d'ateliers. Tout ça, ça demande des financements parce que ces ateliers et ces groupes de parole sont super importants. Vraiment, ça amène des dames à revenir nous voir. Elles sont très peu informées. À chaque fois, j'apprends aux Africaines que non, on ne se douche pas à l'intérieur du vagin, que ce n'est pas bien et que c'est comme ça qu'on attrape des microbes. Ne serait-ce que ça, c'est super important, en fait. Donc, tous ces groupes de parole, tout ce qui concerne l'excision, donc ça aussi, essayer d'avoir des groupes de parole de plus en plus importants pour leur apprendre à la fois que l'excision, ça n'empêche pas de prendre du plaisir si on leur apprend, et qu'on peut aussi leur proposer des ateliers de réparation, si elles le veulent. La plupart ne veulent même pas en entendre parler, ça met du temps. Donc il y a tellement de domaines dans lesquels on a envie de les accompagner, de les ouvrir, qu'on a des projets en ce sens, un projet concret, je ne sais pas, peut-être Virginie, tu pourras compléter.
C'est développer, enfin l'idéal ce serait qu'on n'ait pas à se développer, qu'il n'y ait plus de, voilà, malheureusement la nuit de la solidarité a encore démontré le 26 janvier que les chiffres sont en augmentation et que les besoins sont toujours très forts. Donc effectivement nous c'est agrandir notre équipe, augmenter le nombre de maraudes, avoir plus de bénévoles aussi, parce que les bénévoles sont très importants à la DSF. Voilà, pour nous aider à organiser toutes ces belles actions. Et puis, effectivement, à chaque fois, se créent des nouvelles envies. Les femmes repères pensent à de nouvelles choses à mettre en place, de nouveaux ateliers. On se rend compte aussi qu'on a beaucoup de mamans avec des enfants en bas âge. Donc là, on est en train de mettre en place aussi des passerelles avec des structures où elles peuvent être un peu... aller lire avec leurs tout-petits, accéder à des ateliers lecture, enfin voilà, les occuper aussi, parce que quelquefois, elles viennent à l'accueil deux jours, elles se posent, mais les enfants sont là autour et font pas grand-chose. Il y a aussi tout un côté éducation populaire, en fait, dans notre association, c'est effectivement les sensibiliser aussi à de nouveaux horizons pour faire des choses avec leurs enfants, parce qu'effectivement, quand elles sont en hôtels sociaux et enfermées dans leur chambre, elles sont dans 10 mètres carrés toute la journée et pendant plusieurs mois souvent. Donc voilà, c'est un peu, c'est aussi pouvoir leur donner de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, au-delà de la prise en charge aussi de leurs besoins primaires de santé et d'accès aux soins.
J'avais une question. Est-ce que, selon vous, la crise du Covid a changé les enjeux pour les femmes en situation précaire?
Il y a eu plein de choses avant et après Covid. On a eu, ne serait-ce qu'en termes d'association, on a eu beaucoup, beaucoup d'argent, entre guillemets, beaucoup, il n'y en a jamais assez, d'argent par la région, la ville de Paris, l'ARS, tout ça, et nous et d'autres associations, bien sûr, beaucoup d'argent, parce que tout était arrêté et qu'on était hyper important. Plus de Covid, plus d'argent. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence, c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins de on a une espèce de trou de financement après le Covid. Encore une fois, je sais que c'est le cas de plusieurs associations. Voilà, je pense que le Covid nous a permis on a beaucoup communiqué avec les femmes. On les appelait tout le temps pour leur donner des conseils, j'étais une usine à faire les PCR, on les a vaccinées. Je pense qu'il s'est pris, du coup, elles ont pris des habitudes comme ça vis-à-vis de la prise en charge de santé, et sans doute que ça crée des liens importants. Après, je ne sais pas si est-ce que ça change aujourd'hui. En tout cas, les choses redémarrent. Clairement, il y a eu un coup de frein et les choses redémarrent. C'est pour ça que les ateliers, je vous en ai beaucoup parlé, parce que c'est vrai qu'il y a eu un coup de frein, forcément, on ne pouvait plus faire tout ça. Les choses redémarrent. Moi, je n'ai pas fait un frottis. Les frottis, je les faisais en PCR, mais je ne les faisais plus du tout en frottis classique. Donc là aussi, et pourtant, c'est super important. On a un rôle dans le dépistage des IST et du cancer du col qui est super important, qu'on ne pouvait plus faire. Donc voilà.
Il y a bien d'avoir fait tout, d'avoir essayé de continuer cette matière, cette mission de santé publique, en quelque sorte.
Oui, il fallait vraiment se substituer à des organes. On est une petite association, donc on est très souple. Donc ça, c'est hyper important, et c'est vrai qu'on a pu, du coup, mettre au point des actions très, très rapidement. Donc ça, c'est vrai, avec le soutien, encore une fois, de l'ARS, de la mairie de Paris et tout ça. Hein, sans eux, on n'aurait rien pu faire. Mais c'est vrai qu'on a pu s'adapter très facilement. Et à chaque fois, c'est pareil. Chaque fois qu'on a une nouvelle idée, qu'on peut discuter. À l'époque, là où il y a une différence, c'est qu'à l'époque, on avait une mission de logement. On trouvait des logements aux femmes, ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. Notre mission, c'est orienter dans la santé, réorienter dans la santé. Donc, on ne loge plus. C'est vrai qu'on a eu des difficultés au début parce que les dames nous redemandaient du logement. Et là, il faut orienter vers les associations dont c'est le métier que de trouver des logements.
Et alors là, ce serait plus une question pour nos auditeurs. Donc, vous parliez tout à l'heure des dons qu'on pouvait faire pour soutenir la DSF. Comment est-ce qu'on pourrait aussi s'impliquer personnellement dans votre association pour devenir bénévole en étant soit professionnel de santé ou pas?
Alors, il y a le site internet, voilà, il y a le petit onglet « Devenir bénévole ». En fait, il faut juste remplir un petit formulaire. Moi, je le reçois, je vous recontacte. Et en fait, on fait des formations parce qu'effectivement, on n'est pas bénévole à la DSF. Enfin, voilà, c'est pas seulement, on peut effectivement... organiser des collectes pour les kits d'hygiène, et ça c'est déjà génial, ça c'est sûr. Par exemple, là on a un énorme besoin en dentifrice, voilà, donc si vous voulez collecter des tubes de dentifrice, c'est génial pour nous.
Des brosses aussi d'ailleurs,
les brosses à dents, on en a encore en stock, Adama m'a dit dentifrice, donc moi Adama gère notre stock, et pour le moment c'est les tubes de dentifrice, parce qu'on a 6000 brosses à dents, et on n'a pas le dentifrice qui va avec, donc voilà. Et après, donc devenir bénévole, oui, c'est s'inscrire aux formations, donc on fait une réunion d'information, on essaye d'en organiser une tous les deux mois à peu près. On a deux étapes de formation, une première qui est prépare au terrain pour faire les maraudes et un peu d'accueil, et après en fonction des bénévoles, voir ceux ou celles qui peuvent s'impliquer un peu plus dans la coordination soins, donc aller un petit peu plus loin, et puis en fonction effectivement aussi de vos compétences, des compétences des bénévoles au départ. Toute compétence est bienvenue. Donc on a aussi d'autres actions à côté. On a la nuit des relais le 18 avril. Donc, si vous voulez courir pour la DSF, il n'y a aucun souci. Voilà. Si en amont, vous voulez m'aider un peu sur la collecte en communication, il n'y a pas de souci non plus. Je cherche des forces vives. Donc, voilà, il y a plein de moyens. Ça peut être un stand, ça peut être... toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Il n'y a pas de souci.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'était vraiment très intéressant. Et merci à vous encore une fois d'être venu pour répondre à toutes nos questions.
Merci de votre accueil et de votre idée.
Merci de votre beau projet.
Ouais.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour le gala de charité.